Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétête.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimons, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Une lecture dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes au chapitre 17. Livre des Actes, chapitre 17, verset 24e. Actes, chapitre 17, verset 24e. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes aussi la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent « Denise, l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » Amen. Je voudrais que nous lisions également un texte dans Ésaïe au chapitre 55, s'il vous plaît. Je voudrais que nous le lisions avec beaucoup de ferveur, car c'est un texte qui nous montre vraiment l'amour de Dieu envers les hommes. Ésaïe, chapitre 55, rappelons-nous, comme nous venons de le chanter par le dernier chœur, que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle par ce texte. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevés au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descende des cieux et n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans l'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Le verset 3 est extraordinaire. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Mes frères et sœurs, vous rendez-vous compte de la tendresse et de l'amour de Dieu manifesté dans ce seul chapitre de la parole de Dieu. Mais quelle est la proposition que Dieu peut faire à un homme ? Une proposition d'une alliance qui durera éternellement. Ne trouvez-vous pas cela extraordinaire ? Que pensez-vous donc de l'éternité ? Est-ce que ça vous arrive de penser à l'éternité ? Est-ce que vous réalisez l'impact que devrait avoir ce seul mot dans notre cœur, l'éternité? Être prêt pour vivre cette alliance éternelle. Et je crois qu'aujourd'hui, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de croyants, beaucoup de frères sont parfois bloqués. Bloqués parce que leur vie est limitée à leur entourage immédiat, à leur présent proche, leur vie est là, cantonnée à ce qui se passe autour d'eux, leur vision est limitée, leurs yeux sont fixés que sur les problèmes qu'ils sont en train de traverser. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous donner une vision à très, très long terme. Une vision qui correspond à une alliance éternelle. Et vous êtes tous invités. Est-ce que vous réalisez, dans le contexte du prophète Ésaïe, l'invitation que Dieu fait? Car je peux vous dire que dans le contexte du prophète Ésaïe, il y a de sérieux problèmes. Et pourtant, le Seigneur commence avec cette invitation, vous tous. Vous avez vu? Vous avez votre Bible ouverte? Mes frères, vous tous, vous sentez-vous impliqués dans cette invitation? Ou êtes-vous déjà loin de cette invitation? Êtes-vous déjà loin du cœur de Dieu? Rendez-vous compte que dans un contexte difficile, et c'est vrai que tous sont invités, mais c'est de suite restreint par deux conditions qui sont présentées dans ce chapitre. Premièrement, la soif. On l'a chanté tout à l'heure, j'ai soif de ta présence. Bon, c'est vrai que c'est bien de le chanter et que c'est certainement une joie pour le cœur de Dieu d'entendre des milliers de chrétiens sur la terre, des millions de chrétiens glorifier son nom au travers de cantiques. Mais est-ce que c'est une réalité? Ce matin, est-ce que je peux dire oui, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de sa présence? Oui, il y a une invitation. Qu'est-ce que j'en fais ce matin? Si pour la énième fois Dieu m'invite? Je ne sais pas si nous nous rendons tous bien compte. Je pense non seulement au plan de Dieu pour les croyants qui ont été rachetés et qui ont été appelés, choisis pour faire quelque chose, mais je pense à tous ceux qui n'ont peut-être pas pris le pain et le vin ce matin, qui est invité à entrer dans cette alliance éternelle. Et combien de fois la Bible nous interpelle avec tous ces cas de figure où nous voyons les uns qui ont enfoui leur talent, les autres qui n'ont donné qu'une partie de leur vie, ceux qui ont vécu dans la tiédeur. Tout ça, c'est expliqué. Parce que nous sommes tous faits plus ou moins piégés par des épreuves, par des moments difficiles. Combien de fois quelqu'un a négligé peut-être l'appel? Peut-être que Dieu vous appelle à quelque chose de particulier et que vous êtes bloqué dans votre croissance spirituelle parce que vous vous contentez de tiédeur, vous vous contentez de superficialité. Si Dieu appelle, mes frères, si Dieu invite, c'est qu'il a l'intention de nous faire vivre quelque chose. Et je crois que bien des fois nous sommes passés à côté, nous avons perdu du temps, nous avons gaspillé. Et c'est vrai que tout ça c'est très très bien expliqué par Jésus-Christ, par les apôtres, de faire attention à ne pas perdre du temps. Combien de fois nous aurions peut-être pu être préparés pour témoigner à quelqu'un. D'ailleurs les vacances vont arriver, peut-être que dans ce moment-là, vous allez témoigner à quelqu'un. Hier ça m'a fait plaisir, il y a une dame à qui on a témoigné l'été dernier. Vous voyez, pendant nos vacances, on a témoigné à une dame, comme ça, dans un magasin. Elle me téléphonait pour me dire hier qu'elle avait été au culte dimanche dernier. C'était pas ici, bien sûr. C'est pas dans Haute-Garonne. Eh bien, je bénis le Seigneur. Et ça m'a fortifié dans le sens où je crois que lorsque Dieu nous invite, c'est qu'il ne veut pas que nous fortifier, il veut également que nous soyons prêts à rencontrer des situations que nous allons peut-être vivre dans quelques jours, peut-être que dans 13 jours, 15 jours, 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en pleine dépression. Ne serait-ce pas mieux que je sois rempli du Saint-Esprit pour répondre à cette personne? Est-ce que vous comprenez? Dieu qui connaît tout à l'avance, est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir qu'un jour, quelqu'un était sur votre chemin rempli du Saint-Esprit? Le chrétien qui m'a amené à Dieu me dit quand je le rencontre, je s'appelle, et je lui dis, si tu savais ce jour-là. Et il me dit, oui, le jour où je t'ai témoigné, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et c'est vrai que ce jour-là, quand il m'a parlé de Jésus, j'ai été convaincu de péché. Moi qui ne m'intéressais pas du tout aux choses de Dieu, j'ai été, mais littéralement, convaincu de péché. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas ce que c'était. Mais je savais quelque part que j'étais loin de Dieu, que je n'avais pas fait la paix avec Dieu. Et lorsque vous lisez un chapitre comme celui-ci, vous vous rendez compte que Dieu s'acharne, excusez-moi l'expression, mais Dieu s'acharne à nous inviter. On voit l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dira dans le Nouveau Testament, mais l'amour de Christ me presse. Est-ce que vous ne sentez pas, en lisant ce chapitre, mes frères, mais vous qui n'êtes pas encore baptisés, est-ce que vous ne sentez pas l'amour de Dieu qui vous invite? Si Dieu ce matin venait lui-même nous parler directement, que nous dirait-il? Ne pourrait-il pas se permettre de nous faire certains reproches parce que nous nous sommes trompés parfois dans nos priorités? Quand je pense à l'invitation de Dieu par le prophète Ézéchiel, lorsqu'il dit « Je cherche parmi eux un homme qui se tient dans la brèche », il est en train de décrire comment sont ses pasteurs, ses serviteurs, les sacrificateurs. Et il dit « Voilà, ils ne pensent... » Oui, bon, ils servent, d'accord, mais ils ne pensent pas à moi. Ils ne font pas connaître la différence entre le bien et le mal. Ils n'aident pas, ils n'enseignent pas la sanctification, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je cherche... » Parmi eux, on voit bien que Dieu ne nous rejette pas, même si parmi nous, nous ne sommes pas au top spirituellement parlant, le Seigneur peut dire, mais je cherche quand même parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne cherche pas parmi les créatures célestes. Il ne dit pas, bon, mais quand je les vois comme ils sont, eh bien je vais chercher un ange, je ne sais pas, je vais chercher un archange. Non, Dieu dit, je cherche parmi eux. Nous voyons combien Dieu nous devrait pouvoir nous attirer. Et je suis convaincu, par rapport, c'est pas parce que j'ai donné la prophétie tout à l'heure, mais je suis convaincu qu'il y a un jeune homme, ou un homme, que Dieu appelle à le servir. Et qui jusqu'à aujourd'hui a négligé son appel. Pourquoi? Parce qu'il y a, je sais pas, 20, 30, 40 ans, une maman a prié Dieu de tout son cœur. Que Dieu soit béni pour les prières des mamans. Que Dieu soit prié, que soit béni pour tous ceux qui cherchent Dieu. Ce texte d'Ésaïe, ce texte du livre des Actes, nous rappelle la plus grande injonction de Dieu, chercher l'Éternel. C'est le plus grand appel que Dieu peut adresser à un homme. C'est la plus grande bénédiction que Dieu peut démontrer. Chercher l'Éternel. Même si il y avait parmi nous beaucoup de difficultés, Dieu pourrait dire, mais je cherche parmi vous un jeune homme qui se tient à la brèche, quelqu'un qui va pouvoir faire mouvoir mon bras. Que Dieu soit béni pour les vases que nous représentons. Je suis persuadé que Dieu veut nous amener plus loin, que nous sommes des vases qui, je l'espère, le plus régulièrement possible, sont sur le tour de sa parole pour que Dieu puisse enfin poser ses mains et nous corriger. Peut-être que certains, vous n'êtes sur le tour de la parole que le dimanche matin, juste un petit briefing comme ça, un petit passage, mais ça suffit pas. Le dimanche arrive et déjà le vase s'est rendurci à juste un petit peu de travail. Mais que se passerait-il si chaque jour que Dieu nous donne, puisque Dieu nous demande chaque jour, de chercher sa face. La Bible le dit chaque jour. C'est écrit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu réclame deux conditions. Il le dit, vous tous qui avez soif, et au verset 2 et au verset 3, prêtez l'oreille, écoutez. La soif devrait être vérifiée par l'écoute. Pas l'écoute intellectuelle, l'écoute spirituelle. Ces deux conditions devraient prouver que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose dans notre cœur. Dieu, parfois, ne peut rien faire, parce que nous n'écoutons pas. Nous entendons la prédication, nous sommes d'accord avec le message, nous sommes heureux si la prédication elle est biblique à 100%. Mais c'est pas ça, écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est que je cède à quelque chose que Dieu me demande. Peut-être que Dieu me demande, justement, de m'investir dans quelque chose. Dieu nous le met à cœur. Dieu nous le mettra à cœur d'être fidèle dans des petites choses. Le Seigneur le dit, écoutez-moi, prêtez l'oreille et votre âme vivra. Je traiterai, c'est un contrat, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Est-ce que ça vous intéresse d'être couvert pour l'éternité? Est-ce que ça vous intéresse d'être en communion avec Dieu pour l'éternité, sachant que cette communion éternelle dépend de ce qu'il peut faire sur la terre? Comme j'aime le dire, ce n'est pas dans l'éternité, puisque nous serons parfaits, tels que Jésus, que nous aurons des efforts à faire pour prouver à Dieu que nous l'aimons. Nous serons glorifiés, nous serons parfaits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous serons comme Jésus. Et si un homme peut prouver à Dieu qu'il l'aime, ça ne peut se faire que sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que sur la terre qu'un homme pourra prouver à Dieu que Dieu était en premier dans sa vie. Et si ce texte s'est imposé à mon cœur hier soir, mais cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est à moi, quand je lis ce texte, je l'ai lu et je l'ai relu cette hier soir et ce matin, je relisais ce texte et je me dis, mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour que Dieu parle. Parce que lisez-le une dizaine de fois et vous verrez toute la tendresse de Dieu qui est là et qui dit, mais vous tous, vous qui avez été minables jusqu'à aujourd'hui, qui avez vécu dans la misère, Dieu dit, mais viens! Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu est patient? Vous qui avez négligé peut-être votre femme, qui avez négligé vos enfants, vous qui avez peut-être été superficiel dans votre travail, qui avez cherché à coincer la bulle, comme on dit, vous qui avez agi de toutes sortes de manières, le Seigneur vous dit, vous tous, venez à moi. Vous qui peut-être vous êtes exclus du plan de Dieu en disant, non, avec tout ce que j'ai fait, le Seigneur ne me prendra plus, avec toute ma misère, avec toutes les fois où j'ai pris le jour du Seigneur à la légère, à toutes les fois où j'ai fait ci. Vous tous, vous ce matin, vous pouvez dire, oui, je peux revenir à Dieu et tout à nouveau être refait. Le Seigneur dit qu'il compare un chrétien à un vase et que quand il ne réussit pas, eh bien il le refait. Peut-être que c'est la troisième fois, bien sûr que nous, ça pourrait nous énerver, que ça fait 36 fois que ça recommence, mais Dieu, lui, qui est infiniment patient, sait qu'il peut vous refaire parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Voyez, je vous parlais de cette dame-là qui m'a téléphoné hier soir pour me dire qu'elle allait au culte depuis deux dimanches. Eh bien, voyez, est-ce que ça valait la peine que je lui témoigne ce jour-là, enfin, que ma femme lui témoigne? Est-ce que ça valait la peine? Pour l'éternité de cette femme, est-ce que ça valait la peine? Mes frères et sœurs, Dieu nous aime à tous. Et cette femme dont je vous parle, je peux vous dire que si vous saviez ce qu'elle vit, et pourtant Dieu veut la sauver. Et je peux vous dire qu'elle prend le bon chemin. Est-ce que je réalise vraiment l'état dans lequel je suis? Vous savez très bien que lorsque ça ne va pas, lorsque nous sommes tièdes, nous ne savons pas dans qui nous examiner. Lorsque Jésus dit à la Odyssée, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable et nu. Et lorsque la tiédeur nous envahit, lorsque la vie spirituelle est vraiment difficile, lorsque j'ai du mal à connaître les voies de Dieu, lorsque je suis en danger, je ne le réalise pas. Tout ça, ça a été écrit avec beaucoup de sérieux. Ça a été inspiré par Dieu. Moi, j'aimerais vous dire et vous redire que ce qui est écrit dans la Bible, ça sort de la bouche de Dieu. Que ce que je suis en train de vous dire, ce sont des commentaires de versets bibliques. Que Dieu nous invite, c'est le cœur de Dieu. L'Apocalypse se termine avec une invitation, et pourtant avec un avertissement, que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. On voit bien que Dieu nous laisse libres, et moi je ne peux que également m'investir dans mon ministère, mais vous êtes libres, libres de dire c'est vrai, j'ai soif, mais j'ai soif qu'à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce travail? Quand je suis à l'église, je suis d'accord avec M. Hugo. Et quand je suis à la maison, c'est ma vieille nature qui reprend le dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Cherchez l'Éternel. Est-ce que mon frère, vous cherchez Dieu? Parce que je voudrais vous rappeler ce que j'ai déjà enseigné. À savoir que prier, c'est une chose. Chercher Dieu, c'en est une autre. Dans le verset le plus connu des chroniques. Hein, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il y a bien la différence claire entre prier et chercher Dieu. Et là, il y a une injonction qui s'adresse à tous. Venez tous! Je ressens vraiment dans mon cœur que Dieu invite plusieurs. Plusieurs frères et sœurs qui sont peut-être bloqués dans leur vie spirituelle. Vous êtes en danger peut-être, même certains. Les congés vont arriver et il y en a peut-être un qui va tout faire pour essayer de détruire votre foi. Est-ce que vous croyez que l'ennemi, lui, prend des vacances? Moi, je crois qu'il profite de ces semaines, parfois de vacances, comme un jour... Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui disait, moi, pendant le mois des vacances, je ne prends pas ma Bible, je me repose. Moi, je vais vous dire. Imaginez-vous quelqu'un qui, pendant les vacances, dit, moi, pendant les vacances, je ne mange pas de moi. Vous êtes d'accord? Le gars, il y a un problème. Et quelqu'un qui pourrait prendre cette situation en main, il dit, moi, je... La Bible, non, ça suffit. Écoutez-moi, frères et sœurs. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi chaque jour la nourriture qui fera que lorsque je me présenterai devant toi, je n'entendrai qu'une chose. Je ne sais pas dans quelle langue je l'entendrai, mais ça m'est égal. Je veux l'entendre. Entre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Et nous sommes tous potentiellement en danger. Tous, pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est présenté des hommes héroïques, qui à des moments donnés, à un moment de faiblesse, de fatigue, ont été blackboulés par la puissance de l'ennemi. Je pense à Élie. Cette semaine, je relisais l'histoire de cet homme qui a été un héros pour, national, un héros pour Dieu. Cet homme qui aimait Dieu, qui avait vraiment la crainte de Dieu, cet homme qui n'était ni charnel, ni superficiel, mais pourtant il a craqué. Et il a craqué, il a fallu que quelques heures pour qu'il se décourage, pour qu'il fuit, pour qu'il aille dans le désert, pour qu'il s'isole, pour qu'il se retrouve tout seul, là, dans sa déprime. Et ce n'est pas écrit pour que nous blâmions cet homme, bien au contraire. Le Seigneur présente les faiblesses de certains hommes pour nous montrer que nous sommes tous à la même enseigne et que nous pouvons parfois être perturbés. Une parole. Et cet homme, à un moment donné, a fui. Cet homme de Dieu, vous dites, mais un autre, d'accord, vous dites, un gars, d'accord. Moi, oui, mais Élie. Et regardez comment Dieu va s'y prendre pour le retrouver. Comment Dieu va le bénir, le restaurer. Comment Dieu va même pourvoir. Repose-toi, mange, reste là, il va lui donner à manger. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu qui, si nous ne le cherchons pas, mais écoutez, toute la Bible nous prouve par A plus B que quand nous ne le cherchons pas, c'est lui qui nous cherche. Alors quelle excuse pouvons-nous dire qu'on va rester comme les Hébreux qui disent « Oui, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie », alors que Dieu dit « C'est pas vrai, une mère abandonnerait son enfant. Moi, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé dans mes mains. » Et nous voyons tous les propos qui montrent la superficialité. Lorsque nous sommes là, oh, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie, nous sommes, on en a parlé jeudi après-midi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Le monde est perdu. Le monde est dans les ténèbres. Mais le chrétien, il n'est pas perdu. Il a Dieu pour Père, Dieu pour Rédempteur, Dieu pour Sauveur. Dieu pour refuge, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Les fondements sont renversés, tout est déstructuré, et comme l'a dit la prophétie. Mais les jours sont mauvais. Au premier de l'an, il y a monsieur de Toulouse qui me téléphonait, il me dit, monsieur Gaud, j'espère que l'année 2004 sera merveilleuse. Je dis, écoutez, vous savez, moi je ne suis pas pessimiste, en plus c'est vrai, je ne suis pas pessimiste de caractère. Mais nous avons vu déjà combien l'année a été grave. Quand vous vous rendez compte que toute la terre peut voir sur des sites des gens se faire égorger. Et moi je vous dis, ce n'est que le début. Et les jours seront mauvais. Et si Dieu enlèvera l'église, c'est parce que l'église ne pourra plus rester. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle ne pourra plus rester. Mais le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous. Et comment un homme peut se redresser s'il ne cherche pas Dieu? Comment un homme peut être rempli du Saint-Esprit s'il ne cherche pas Dieu? Comment un homme, comme Jérôme le lisait tout à l'heure, peut offrir un culte avec une véritable piété s'il ne cherche pas Dieu? Vous me voyez en train d'offrir un culte à Dieu avec une vraie piété si toute la semaine je ne m'occupe pas de mon âme? Je vais faire du cinéma. C'est pas dit comme ça dans la Bible, c'est dit l'apparence de la piété. Mais le problème, c'est que des milliers de chrétiens, et moi j'ai peur, très sincèrement, moi j'ai peur que même dans l'assemblée, si le Seigneur revenait ce matin nous chercher dans 20 minutes, beaucoup ne soient pas prêts. Beaucoup ne réalisent pas. Parce que nous sommes tous dans la même enseigne, je le répète. Élie n'était pas un homme charnel. Élie était un homme vraiment spirituel, il a été enlevé sans voir la mort. Je veux dire que c'est pas mal ce qu'il a vécu. Et bien voyez, c'est ce qui attend tous ceux qui seront prêts pour l'enlèvement de l'Église. Mes frères et sœurs, le Seigneur, dans ce chapitre 55, relisez-le 2000 fois, mais relisez-le, et vous verrez que le cœur de Dieu vous cherche. Bien sûr que le commandement, il est là. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Dieu a voulu que tous les hommes le cherchent. Et peut-être que vous êtes vraiment, je le répète, en danger. Cet été, je vous dis, si vous ne vous entretenez pas spirituellement, l'ennemi se chargera de vous voler peut-être le peu qui vous reste. Ne voulez-vous pas au contraire utiliser ces congés pour reprendre tout ce que l'ennemi vous a volé? Pour reprendre peut-être le don que vous aviez, pour le ranimer? Mes frères et sœurs, sur le chemin d'Emmaüs, vous rappelez les deux disciples? Eux aussi, ils étaient pas bien. C'était pourtant le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Un jour, il y aura le jour de l'enlèvement. Combien fuiront? Combien le jour de l'enlèvement auront peut-être rétrogradé quelques heures avant? Mais imaginez-vous, frères et sœurs, le drame pour celui qui connaissait Jésus et qui, parce qu'il aura été éprouvé et pas accepté l'épreuve, il aura abandonné le Seigneur quelques heures avant l'enlèvement de l'Église. Vous ne trouvez pas ça triste? Comme ce sera merveilleux aussi, celui qui se sera converti quelques secondes avant l'enlèvement de l'Église. Je peux vous dire qu'il va monter en s'essuyant le front, celui-là. Croyez-moi. Mais enfin, bien, histoire Dieu, il sera sauvé. Hein? Et quand on voit comment Dieu nous cherche, et Dieu, on voit bien, bien sûr que Dieu parfois est sévère, et que des fois, il faut avoir assez de lucidité pour comprendre que Dieu est capable d'être sévère, comme nous le sommes avec nos enfants, qu'un retour, un va-et-vient, ça ne fait pas le mal. C'est nécessaire. Et Dieu, parfois, eh bien, il sait le faire. Mais il le fait bien. Mais on voit bien dans ce texte, et dans les deux disciples d'Emmaüs, et quand ils étaient coincés le jour de la résurrection, dans la chambre haute, le Seigneur est entré, la paix soit avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit au verset 12? Vous serez conduits en paix. Pourquoi Dieu veut qu'on le cherche? Parce qu'il est Dieu de paix. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu de paix. Il est le prince de la paix. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il se redécouvre, il donne la paix. Peut-être que vous l'avez pas, peut-être que vous êtes toujours énervé, toujours irrité, et que vous avez l'impression que ce sont les autres qui vont pas bien, parce que c'est pervers l'orgueil. Hier, je méditais l'histoire d'Ozias. Cet homme, mais comment il a commencé cet homme? À partir de 16 ans, il s'est mis à chercher Dieu. Et tout le temps qu'il a cherché Dieu, l'Éternel l'a fait prospérer. Mais c'est impressionnant. Comment ce jeune homme, à 16 ans, a pris conscience de la vocation, puisqu'il est devenu roi, qu'il a reçue. C'est impressionnant comment, par sa seule vie, il a amené la bénédiction sur tout Israël. Et puis, au bout d'un moment, il a cru que c'était normal. Il a cru, ben, Dieu me bénit, ben, c'est normal, je suis bien. Mais le problème, c'est que, quand on en arrive là, à vivre en roue libre, il est dit qu'il a prospéré tout le temps qu'il a cherché l'Éternel. Et il est tombé dans l'orgueil. Et l'orgueil est pervers. Parce que M. Ozias n'a pas trouvé mieux que de tenter Dieu. Il a fait quelque chose de très subtil. Quelque chose qui paraît être spirituel. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il est entré dans le temple pour offrir des parfums. Alors, quand on ne connaît pas, on dit, attends, il est spirituel ce gars. Il va dans le temple et il offre des parfums. Alors, qu'est-ce que c'est ce travail? Il est orgueilleux ou il fait des progrès? Mais voyez, il va faire quelque chose que même s'il est le roi, il n'a pas à faire. C'était le rôle des sacrificateurs. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, parfois pour justifier notre désobéissance, on peut faire tout un tas de choses qui peuvent paraître spirituelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux, par exemple, pour me prouver que je suis toujours spirituel, bon, c'est vrai, il y a ça, mais allez, je vais faire une grosse offrande au Seigneur, je vais faire certaines choses, mais bien sûr qu'il y a des choses que Dieu nous demande, mais on peut parfois se justifier en faisant tout un tas de choses que Dieu ne nous demande pas. Et il s'est passé que Dieu est intervenu parce qu'il y a un moment donné où Dieu intervient. Et c'est ça le problème. Dieu va intervenir par l'enlèvement de l'Église d'une manière générale. Est-ce que vous comprenez? Franchement, mettez-vous un instant à la place d'une personne qui ne sera pas prise à l'enlèvement de l'Église. Imaginez-vous. Allez, on fait un essai. Imaginez-vous, le Seigneur revient dans 30 secondes. Tout le monde est enlevé, sauf vous. Vous et le pasteur. On reste là. Est-ce que ça risque d'arriver un truc comme ça? Ben oui. Est-ce que vous vous imaginez le traumatisme, le drame, dans les milliers d'églises le jour de l'enlèvement, où on sera en train de parler de l'enlèvement, et que des chrétiens ne seront pas enlevés parce qu'ils n'auront pas veillé à offrir à Dieu un culte avec crainte et piété? Et si Dieu dit, mais vous tous, venez, il y en a plusieurs sûrement qui ne sont pas prêts ce matin, mais vous n'entendez pas le Seigneur qui vous dit, mais viens, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens me chercher. Tu es venu pour tranquilliser ta conscience. Tu es venu parce que tu as besoin d'argent. Tu es venu parce que tu as un problème peut-être dans ton foyer. Tu es venu parce que tu as besoin d'un intérêt. Mais le Seigneur, il ne dit pas chercher votre intérêt. Il ne dit pas chercher la bénédiction. Il n'y a pas un texte dans la Bible qui dit chercher la bénédiction. Dieu dit chercher l'éternel. Et combien, nous le savons, combien de gens cherchent la bénédiction? Combien de gens viennent à l'église pour chercher un intérêt personnel? C'est pas malsain. C'est pas malsain d'espérer que Dieu me bénira matériellement. C'est pas malsain d'espérer que Dieu me bénira affectivement, je ne sais rien, professionnellement. C'est pas malsain. Mais ça devrait toujours être la conséquence de notre recherche spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi je crois qu'il y a des choses, il n'y a même pas besoin de les demander, puisque Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ça, qui c'est le royaume de Dieu? Mais c'est Jésus. Et sa justice, c'est des choses justes de Dieu. Et toutes choses vous seront données. Alors pourquoi, mais pourquoi je m'acharne à demander au Seigneur qu'il fasse ceci? Bien sûr qu'il faut prier pour le salut des âmes. Mais moi je vous dis, frères et sœurs, si nous cherchons l'éternel, il traitera avec nous une alliance éternelle. Et l'alliance éternelle, elle englobe tout le plan de Dieu sur la terre. Celui de voir une église qui est vraiment une maison de prière. Une église qui ne se laisse pas embarrasser parce que Dieu m'a pas encore exaucé. C'est vrai que des fois c'est douloureux. C'est vrai que c'est dur parfois d'attendre des mois et des mois parce qu'on est bloqué physiquement, parce qu'on est malade, parce qu'on est au chômage. Mais ce temps de chômage, ce temps de maladie, ne peut-il pas me pousser au pied du Seigneur? Je vais trépigner et dire pourquoi? Et pourquoi je ne dirais pas, Seigneur, peut-être que tu m'attends et que tu n'as pas trouvé, tu n'as trouvé que ce seul moyen pour me jeter dans ta présence, comme cet homme qui a perdu ce travail, et qui était en colère, un chrétien. Il était dans une colère folle, parce que il en voulait à tout le monde, et surtout à Dieu. À Dieu qu'il avait trop perdu son travail. Et il comprenait pas, il était en colère, il prenait plus la Sainte-Cène, il voulait plus venir à l'église. Et là, son épouse lui a dit, mais chérie, peut-être que Dieu est dans cette affaire. N'importe quoi. Vous savez, quand l'orgueil est là, et que on est en train de résister à Dieu, et cet homme a cédé, il a demandé pardon au Seigneur, il a demandé pardon à sa femme. Et là, dans ce temps de chômage, il a cherché Dieu, et Dieu l'a appelé à le servir. Et cet homme était préoccupé par son boulot, et par ses affaires, mais c'était pas forcément méchant. Mais il n'avait jamais de temps pour chercher Dieu. Il ne prenait pas le temps d'obéir à cette invitation pour une alliance éternelle. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont de bonnes professions, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous enrichisse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une alliance supérieure, nettement supérieure, parce qu'elle est éternelle. Voyez, bon, je ne fais pas 35 heures, mais quand même, je préfère servir Dieu que d'être resté à travailler pour le DF. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne fais pas grève. Tout seul, des fois dans mon bureau, à ma pancarte. Hein? Mes frères, ne croyez-vous pas que l'alliance éternelle, elle est une alliance d'amour? Ne voudriez-vous pas le temps qui va suivre dire, Seigneur, c'est vrai, il faut que je te cherche. Il faut que je te cherche. Je ne veux pas prier vite. Je veux te chercher l'éternel pendant qu'il se trouve, parce que ça, écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste, pendant qu'il se trouve, ça veut dire qu'un jour, il ne se trouvera plus. Et pourquoi attendez-vous? Pourquoi attendez-vous une meilleure prédication? Si c'est clair que vous priez, qu'est-ce que vous attendez d'être marié, comme disait le frère? Qu'est-ce que vous attendez? Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Si le Seigneur revenait dans le jour qui suit, que feriez-vous? Vous grinceriez des dents, dit la Bible. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous, les jeunes qui n'êtes pas encore baptisés, qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez qu'en étant marié, ça ira mieux? Il y a des gens qui m'ont dit, oh, moi, je suis pas envie de foutre le camp de la maison parce qu'il y en a marre. Et quand je serai avec ma copine ou ma femme, je serai heureuse. Et bien, ils viendraient me voir. On n'est pas heureux tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu. On n'est pas heureux tant qu'on n'a pas eu le pardon des péchés. La Bible dit, cherchez l'éternel, si vous avez votre Bible ouverte, la fin du verset 7. C'est pas merveilleux? Pourquoi il faut chercher Dieu? Pourquoi? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà ce qu'on a besoin. On a besoin du pardon des péchés. Voilà ce qu'on en a besoin. Vous pensez que vous avez besoin de ceci. Oh, vous pensez que si le patron était mieux, ceci... On a besoin du pardon. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur qui est pardonné. Si ce matin vous pouvez dire, oui, j'ai peut-être pas grand-chose, j'ai encore besoin que les mains du potier se posent sur moi, mais je suis pardonné. Voilà pourquoi il vous faut chercher Dieu. Tant que vous ne chercherez pas Dieu, vous serez malheureux, vous serez coincé. Peut-être que vous ferez quelques prières, mais ça ne donnera rien. Peut-être que vous tranquilliserez votre conscience, mais ça ne vous apportera pas le pardon des péchés. Si vous cherchez Dieu, il se laissera trouver. Et combien de fois nous ne l'avons pas, parce qu'on n'a pas fait gaffe, mais combien de fois, alors que nous n'avons pas cherché Dieu, Dieu est venu nous chercher et nous ne l'avons même pas vu, nous ne l'avons pas entendu. Et pourtant un jour, toutes ces choses vont coordonner ensemble et Jésus, au son de la trompette, enlèvera en un clin d'œil l'Église. Ce jour sera le plus grand jour de l'histoire pour l'Église. Ce jour s'approche. Dieu a voulu, par la prédication, par la Sainte Cène, par une prophétie, vous le rappelez, et j'ai appris par la parole de Dieu que quand Dieu répète des choses deux ou trois fois, c'est que les choses sont très sérieuses. Très sérieuses. Quand, par exemple, Osias entend les anges dire « Saint, Saint, Saint », et l'Éternel, je crois qu'il y a que deux textes dans la Bible où il est dit trois fois le même mot est répété « Saint, Saint, Saint », et dans l'Apocalypse, justement, « Malheur, malheur, malheur ». Ah ouais. C'est pour que nous nous arrêtions. Malheur, oui. Malheureux l'homme qui va à l'église et qui ne cherche pas l'Éternel. Malheureux l'homme qui ne voit pas l'amour de Dieu dans ses versets. Malheureux l'homme qui n'entend pas le Saint-Esprit lui dire mais sauve-toi de cette génération perverse. Cherchez-le, tandis qu'il est prêt, un jour, il sera introuvable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens qui sont en enfer aujourd'hui, ils peuvent dire, mais Dieu était près de moi. Tandis qu'il est prêt. Dieu est sur la terre, par le Saint-Esprit. Dieu est à portée de main, dira l'apôtre Paul aux Philippiens. À portée de main, ça veut dire qu'il est accessible, que n'importe quel homme peut dire, Seigneur, sauve-moi ce matin. Pourquoi ne voulez-vous pas chercher Dieu? Pourquoi attendez-vous? Attendez-vous que vos parents soient mieux? Attendez-vous que vos parents soient plus spirituels? Êtes-vous assez aveuglé pour dire, oui, ben, quand je vois mes parents, mais... Et même si tes parents ne sont pas parfaits, est-ce une raison, un, pour les mépriser? Et pourquoi ne deviendriez-vous pas vous meilleur pour être en bénédiction à vos parents? Que t'importe les autres? Que t'importe tes parents? Toi, suis-moi. Allez-vous jouer votre éternité parce que vous n'êtes pas d'accord avec le comportement de vos parents? Allez-vous jouer votre éternité parce que vos parents vous sont sévères avec vous? Remerciez-les. Remerciez-les pour leur sévérité. Vous voudriez qu'ils vous laissent faire n'importe quoi? Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Il y a un psaume qui dit l'Éternel regarde du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas. C'est sûr qu'à un moment donné, on voit le côté humain de Dieu. Excusez-moi de cette expression. Mais on voit le cœur de Dieu. On voit, il cherche. Vous voyez, quand il y a 6 milliards d'habitants, si en ce moment, n'importe où, en Chine, au Rwanda, au Mexique, il y a une âme qui le cherche, Dieu va se présenter. Mais vous vous rendez compte de l'amour de Dieu? Pourquoi? Pour nous casser les pieds? Pour traiter une alliance éternel. Mais je suis sûr qu'on n'est pas conscient de l'éternité. Si on était conscient de l'éternité, je suis sûr que la majorité des gens céderaient à l'appel de la croix. L'éternité, sans Dieu, en enfer, dans un lieu de tourment, avec pour copain le diable et ses démons. Mais vous vous rendez compte, l'éternité en enfer. Vous comprenez? Cherchez-le, tandis qu'il est prêt. Ne vous la jouez pas comme Belshazzar qui faisait la fête et qui, à un moment donné, a vu sur le mur de la salle à manger... Peser, tu as été trouvé léger dans la balance, et ton règne prendra fin. Peut-être que cette parole, elle n'est pas loin d'être votre verdict. Vous allez me dire, mais monsieur, vous n'avez pas le droit, nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, c'est vrai, que cette parole, elle n'est pas pour celui qui est encore vivant. Mais si vous étiez à 5 minutes de la mort, et que vous n'ayez pas fait la paix avec Dieu, cette parole pourrait être la parole de Dieu pour vous. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si je vis dans le péché, hein, que bon, je prêche, tout ça, d'accord, mais si je vis dans le péché, et que je vais mourir dans 5 minutes. Est-ce que Dieu peut m'adresser cette parole? Ben oui. Et nous devons, si nous voulons voir des âmes sauvées, nous devons être heureux d'entendre le Seigneur nous dire, je te cherche. Vous trouvez pas ça merveilleux? Vous comprenez pourquoi tout genou fléchira? Tous les genoux fléchiront. Tous ces gens incrédules, tous les hommes de la terre, toutes les femmes ne pourront que fléchir le genou parce qu'ils n'auront pas d'excuses. Ils auront eu dans leur cœur la pensée de l'éternité et ils pouvaient tous faire la paix avec Dieu. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve.